Voilà, je suis heureux de vous saluer. Je vous apporte également la salutation de l'église de Mirecourt. Je vous invite à prendre avec moi un des passages les plus connus de toute la Bible. Il s'agit du psaume 23. Alors, si vous voulez bien, on va le lire ensemble. Psaume 23. C'est un psaume de David. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton, voilà mon réconfort. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et je reviendrai dans la maison de l'Éternel pour la durée de mes jours. C'est un texte qui est difficile à commenter, parce qu'il est extrêmement connu. C'est quelque chose qui nous est très familier. Quand on le lit, on le chante, on le cite, ça fait partie de notre culture évangélique. Et alors le défi, sachant qu'on a affaire à quelque chose qui est très connu, justement, qu'on croit connaître, eh bien le défi, c'est de le relire, non pas en bon chrétien évangélique qui connaissent tout ça par cœur, mais en tant qu'homme et femme remplis de besoins, et je vais insister là-dessus aujourd'hui, remplis même de crainte. J'entendais dire tout à l'heure qu'on peut passer par des galères. Et donc, nous sommes des femmes, des hommes et des femmes tout à fait ordinaires qui devons constamment affermir leur confiance en Dieu. Et je crois que ce psaume a été écrit pour ça. Et donc, je vous propose d'étudier au travers de ce psaume une relation exemplaire entre un être humain et son Dieu. Alors, le genre du passage, c'est quoi ? On voit clairement qu'il s'agit d'un dialogue entre... ça commence comme ça, verset 1, 2, 3. C'est un dialogue entre le psalmiste et nous. En fait, le psalmiste nous parle de son Dieu. Il en parle à la troisième personne. Hein. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Et vous avez la description de l'action de Dieu. Et puis à partir du verset 4, je pense que dans vos Bibles, il risque d'avoir un blanc entre le 3 et le 4, parce que ça change. Et à partir du verset 4, on a un dialogue entre le psalmiste et Dieu. Il se met à prier, à parler à Dieu, il le tutoie. Et donc, quelque part, nous qui sommes lecteurs, eh bien, nous sommes attirés par le psalmiste dans son intimité avec Dieu. Au travers de cette prière qu'il fait, il nous attire. Et nous devons comprendre que, ici, ce passage, comme énormément de passages de la Bible, c'est un passage qui est normatif. C'est-à-dire, ça nous est présenté comme exemple à suivre, comme une démarche à imiter. Et vous savez, je pense qu'on est motivés les uns les autres de faire connaître Dieu autour de nous. C'est clair, c'est quelque chose qui est important dans nos vies. Et souvent, on se casse la tête, on dit, mais comment je pourrais parler de Dieu à mon beau-frère, à mon collègue, à mon voisin? Je pense qu'un des secrets d'évangélisation, avant de chercher à partager Dieu autour de nous, c'est-à-dire à parler de lui, eh bien, un des secrets, le plus important, c'est d'avoir ce dialogue intérieur, lui, moi. Et en ce sens, on pourrait renverser le psaume, vous voyez, commencer par le verset 4, 4, 5, 6, c'est-à-dire avoir cette vie de prière solide, parler à Dieu, apprendre à le connaître dans son action, dans toute sa protection, et ensuite, le verset 1, 2, 3, ayant dans la prière appris à mieux connaître Dieu, étant dans une forte relation avec lui, alors il est temps de chercher à parler de lui, de chercher à le partager. Alors, qui parle dans ce psaume ? Manifestement, au début du psaume, on a affaire à une brebis. C'est un mouton qui parle. On va dire une brebis parce que ça fait plus noble, mais ça revient même. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Alors vous imaginez une brebis, un mouton qui parle, voilà. Et j'aimerais vous poser cette question parce que, vous voyez, c'est tellement évident, ce psaume, on l'a lu 10 000 fois, on le connaît par cœur, l'Éternel mon berger. Bon, voilà. Moi j'aimerais vous poser cette question, c'est qui votre berger? Lui répond, l'Éternel est mon berger. Et c'est une question qui est importante parce que si l'Éternel est mon berger, si mon berger c'est Dieu, alors je suis une brebis, d'accord? Je me laisse conduire. Certains dans le monde diraient, bon, c'est un mouton, il est un peu faible. Un jour il est passé par un moment dépressif, alors il a levé les mains dans une réunion et depuis, voilà, il est bien religieux, il a besoin de Dieu, voilà. Moi j'entends bien être une brebis, me laisser conduire par Dieu, me laisser mener. Alors deuxième solution, mon berger, bien c'est moi. C'est moi. Je suis le berger de ma propre vie. Dans ce cas, je ne suis pas une brebis, je suis un bouc. Vous voyez ce que je veux dire? Et je parle sérieusement parce que au jugement dernier, vous aurez les brebis et les boucs. Les brebis, c'est ceux qui auront suivi Jésus. On chante un très beau cantique, tout à fait ancien, « Suivez, suivez l'agneau ». D'accord? Ça, c'est les brebis. Et puis, il y a les gens qui se suivent eux-mêmes. Et quand vous lisez les prophètes d'Israël, vous voyez qu'il y a une dénonciation parfois véhémente de ceux qui se paissent eux-mêmes, de ceux qui sont leur propre patron en tant que croyants, de ceux qui se dirigent par eux-mêmes en essayant de tirer avantage de la vie. Hein. Alors je fais un peu ce que je veux dans la vie, je vais à droite, je vais à gauche, hein, j'essaie de bien profiter, et puis comme je suis chrétien, n'est-ce pas, j'ai l'assurance de la vie éternelle en plus, quoi, je gagne sur les deux tableaux. C'est, je suis dans une combinaison gagnante-gagnante. Alors vous allez me dire, mais on n'est pas concerné par ce que dit les prédicateurs, on est chrétien. Eh bien, dans mon expérience pastorale, je peux vous le dire, je commence à avoir accompagné pas mal de profils différents et d'avoir connu pas mal de gens différents dans diverses églises. Eh bien, je peux vous dire qu'on peut très bien proclamer Jésus comme Seigneur, comme berger, et chanter de son cœur au culte, « Jésus est au centre de ma vie, Jésus prend ta place sur le trône de ma vie, etc. » et vivre quand même, clairement, sans porter sa croix, sans renoncer au monde, vivre pour soi-même. C'est facile de se mettre la main sur le cœur. Comme disait notre sœur, on peut parler de Dieu sur son trône, alors qu'en fait, concrètement, dans la réalité des choses, au quotidien, eh bien Dieu, il est dans le cagibi de ma vie, dans le placard à balai de ma vie, et surtout qu'il n'en sorte pas trop vite. Hein. Vous voyez, un christianisme en parole ne suffit pas, l'apôtre Jacques nous le dit bien. Alors on en a fait ça aussi, tout un quelque chose d'un peu faussé, la foi, les œuvres. Je pense que ce que visait Jacques, c'est justement ce que je suis en train d'expliquer. Des chrétiens qui proclamaient la Seigneurie de Christ, mais qui en fait concrètement dans leur vie n'appliquaient pas la volonté de Dieu. Et donc vous voyez, cette question est importante, ça a l'air banal, l'Éternel est mon berger. Oui, mais est-ce vraiment l'Éternel mon berger? Ou est-ce qu'il n'y a pas encore des secteurs de ma vie où c'est moi qui m'aime? Alors, donc, versets 1 à 3, c'est un mouton qui parle, et puis ça change au verset 4, et on voit clairement qu'il s'agit d'un homme. C'est un homme qui parle. Là, on laisse de côté l'image de la brebis, et on parle d'un homme qui est assis à une très belle table, face à des adversaires, une situation de conflit. Donc, clairement, là, on est sorti de... Enfin, on est encore dans des images, d'ailleurs, mais l'image, elle est humaine, elle n'est plus animale. Et donc j'aimerais vous le relire, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal car tu es avec moi, ta houlette et ton bâton, voilà mon réconfort, là on est encore dans la brebis. Et puis au verset 5, tu dresses devant moi une table en face de mes ennemis, tu oindris de ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et je reviendrai dans la maison de l'Éternel pour la durée de mes jours. C'est clairement un homme qui parle, un homme qui mange, qui boit, qui s'est parfumé la tête. Alors on pourrait penser quelqu'un de faible, de sentimental, hein, vous voyez, le genre un peu mouton, besoin d'être guidé, d'être protégé. Ah, la vie c'est dur, heureusement que j'ai mes prières, heureusement que Dieu veille sur moi. Et c'est là qu'il faut revenir en tête du psaume, je m'excuse, je vous balade hein, dans le psaume, mais regardez l'en-tête du psaume, vous avez le chiffre 23 dans vos Bibles, psaume de David. Qui a écrit ça? Un faiblard, un peu sentimental, un peu cabossé par la vie, qui a besoin d'une espèce de père idéal pour se réfugier? Eh bien, comme vous le savez, l'auteur, c'est David, c'est un guerrier. Et il faut le dire, quelqu'un qui avait du sang sur les mains à la fin de sa vie. Il en avait tué des ennemis. Et à propos de moutons, justement, il savait de quoi il parlait, puisqu'il avait été berger, vous le savez. Et j'aime beaucoup ce passage dans lequel il se prépare à affronter Goliath. Et donc, vous connaissez le passage, le roi Saül lui dit « Attends, il ne faut pas y aller, là, tu vas te faire démolir, tu n'es qu'un jeune homme. Lui, c'est un guerrier professionnel depuis sa jeunesse, tu n'as pas une chance. » Et David répond quelque chose d'admirable. Il dit « Ton serviteur gardait le troupeau de son père dans la campagne. » Et puis, de temps en temps, il y avait le lion, l'ours, qui venait m'arracher une bête. Et moi, je me dressais contre lui pour arracher la brebis de sa gueule. Et si se rebiffait, je le prenais par la barbe et j'ai tapé dessus jusqu'à qu'il lâche. Voilà qui écrit ce psaume. Quelqu'un qui, en tant que jeune adulte, affrontait le lion et l'ours. C'est pas rien. Et qui est allé affronter un géant qui faisait 3,20 m de haut. C'est pas rien non plus. Mais c'est lui qui dit « L'Éternel est mon berger, je me laisse conduire près des eaux paisibles, et quand je suis dans la vallée de l'ombre de la mort, je suis rassuré par ta présence. » C'est lui qui dit ça. Moi, ça me frappe. Et vous voyez, je crois que nous sommes appelés à autre chose qu'un christianisme sentimental. On est appelés à être des combattants qui combattent le bon combat de la foi. Et des géants, il faut en affronter, ne serait-ce que des géants intérieurs. On peut passer par des galères extérieures, bon, le cas typique c'est la galère professionnelle, un autre cas typique c'est la galère sur le plan de la santé. Mais je veux dire, nous l'avons chanté ce matin également, il y a des géants intérieurs, des pensées impures, de l'orgueil, de la résistance, des tas de choses qui n'honorent pas Dieu, l'incrédulité, l'égoïsme, l'esprit de jugement, on pourrait en faire toute une liste. Et parfois, même après des années de vie chrétienne, ces choses-là dans nos vies peuvent sembler à des géants et il faut les affronter. Et comment pourrait-on y arriver si on n'a pas la protection de Dieu, si on n'a pas l'aide de Dieu? Donc vous voyez, celui qui écrit ce psaume qui a l'air si sentimental est en fait un grand guerrier et qui, au travers de sa relation à Dieu, dans laquelle il cherche sa protection, nous rappelle que la vie chrétienne est un combat, ni plus ni moins. Et c'est pour ça que c'est tellement important de chercher la protection de Dieu. Parce que franchement, il y a des baffes à prendre, il faut le dire. Et si on veut être sérieux dans notre vie chrétienne, ça ne sera pas facile tous les jours, il faut le dire. Alors maintenant, j'aimerais parler d'autre chose qui est au cœur de ce psaume. Ce n'est pas dit très clairement, mais ça ressort très nettement en filigrane. J'aimerais parler des craintes. Je pense qu'on ne peut pas comprendre le ressenti de David dans ce psaume. Donc vous l'imaginez, il est là avec sa lyre, il cherche un peu le bon accord à placer, il cherche aussi à formuler sa poésie, là il y a un minimum de rime et de rythme. Et il exprime cette foi confiante, la foi de la brebis en son berger. Et dans ce psaume, en fait, il nous laisse, transparaître toutes ses craintes. Parce que vous voyez, je parlais du grand guerrier, on pourrait dire, moi je me mets en roue libre, attends, moi je ne suis pas un grand guerrier du tout, je ne suis pas un combattant de la foi, quoi. Moi je suis vraiment un homme ordinaire, une femme ordinaire, alors bon, le coup d'aller affronter Goliath, franchement, je ne suis pas concerné, quoi. Et justement, ce qui est intéressant, c'est que ce grand guerrier, si courageux, il exprime des craintes, des peurs. Et les craintes qu'il exprime sont plus ou moins les nôtres. Et là, je crois vraiment qu'on peut s'identifier à lui. Et alors, j'aimerais énumérer, il y en a trois à mon sens. Premièrement, la peur de manquer. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Pourquoi il dit ça, je ne manquerai de rien? Parce que justement, il a peur de manquer. Il a peur de manquer. Et je crois que c'est une peur qu'on peut tous ressentir. Croyez que notre système de retraite, je le dis parce que je serai bientôt retraité professionnellement, croyez que ça va tenir le coup indéfiniment, que nos pensions, elles sont toujours au top? Et puis, est-ce que ma santé, je commence à, en me levant le matin, à avoir des douleurs intercostales, ça m'inquiète, quoi. C'est même pas que ça me fait très mal, c'est que c'est pas bon signe. Est-ce que la santé ne va pas me faire défaut? Et puis, je regarde autour de moi et c'est incroyable le nombre de gens que j'ai perdu ces dernières années. Un tel qui est mort dans un accident de la route, un tel qui a fait un cancer, un tel ceci, un tel cela. Je ne vais pas me retrouver tout seul. Est-ce que j'aurai une compagnie quelconque? Vous voyez, il y a des tas comme ça de choses qui peuvent nous passer par la tête, qu'on soit jeune, vieux, peu importe. Hein. On peut être jeune, on ne se sent pas vraiment concerné par le cancer, mais bon, trouver du travail actuel. Bref, peur de manquer. David exprime aussi sa peur de l'épreuve, et en particulier l'épreuve suprême qui est l'épreuve de la mort. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Vous savez, je n'ai pas une expérience militaire énorme, mais je suis officier de réserve et j'ai pu recueillir les confidences. Je joue un peu un rôle d'aumônier dans l'armée et j'ai pu recueillir les confidences de gens qui ont été au combat, quoi. Des gens qui ont fait la Bosnie, l'Afghanistan. Et bien, vous savez, on a là des gens qui se sont engagés dans l'armée parce qu'ils y croyaient. Souvent, c'est leur vie. Mais ils disent tous pareil, hein. Quand on est au combat, on a peur. On a peur. Quand guerrier ou pas, on a peur. Et dans le combat dont je parle, le combat de la vie chrétienne, il est parfaitement normal d'avoir peur, peur de l'épreuve. Peur de l'épreuve. Parfois l'épreuve peut être extrême, hein. On doit faire face à la mort. Parfois c'est beaucoup plus soft. Mais n'empêche que, je pense, ni les uns ni les autres, on est masochistes. On n'a pas envie de passer par la sombre vallée, même si elle n'est pas très sombre. Donc peur de manquer, peur de l'épreuve. Verset 5, tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Donc vous imaginez une table bien remplie. Et puis lui, il est d'un côté, et en face, il y a tous les gens qui ont été invités en même temps que lui. Et heureusement que la table les sépare, hein, parce que si les yeux pouvaient tuer, d'accord. Et il sait très bien que les gens qui font des grands sourires en mâchonnant leur bout de mouton, là, en fait, ils le calomnient, ils le détestent, ils cherchent à les nuire. Vous n'avez jamais vécu ça? On n'aime pas l'hostilité. Quelque part, on a peur de l'incompréhension, de la solitude, du rejet. On ne veut pas que ça nous arrive. Parfois, vous voyez ce que je veux dire? Vous sentez des situations humaines se dégrader, quoi. Il y a des gens, vous voyez, ils prennent certains virages, clairement, et vous ne comprenez pas trop pourquoi. Bon, parfois, vous avez une idée, mais des gens qui se mettent à imaginer des choses sur vous, et on voit ça peut être dans le domaine familial, dans le domaine professionnel, vous voyez l'incompréhension qui grandit. Vous sentez que quelque part, des gens vous font la tête, quoi. Une atmosphère désagréable se met en place. On n'aime pas ça. Ce qu'on veut, c'est être apprécié, être aimé, sentir qu'on a notre place, qu'on est... Donc, peur du manque, peur de l'épreuve, peur de l'hostilité. Je crois que David aurait pu en faire une liste extrêmement longue, mais ce n'était pas son but. Il n'était pas là pour verbaliser des craintes, il était là pour verbaliser sa confiance. N'empêche que, même si ce qui est mis en avant dans ce psaume, je crois qu'il faut être au clair sur nos craintes, avant même d'exprimer notre confiance en Christ. Parce que là aussi, c'est facile d'avoir des postures évangéliques, vous savez. J'ai connu ça dans certains milieux, hein. Il y a des gens, le Seigneur me bénit, formidable, je suis dans la victoire. Excusez-moi, hein, je vais être familier, mais c'est du flan, leur truc, c'est du flan. La réalité, c'est qu'ils sont morts de trouille. Et on les a formatés pour ne pas dire « j'ai peur ». Et donc, avant de dire « j'ai confiance en Dieu », il faut que j'ose avouer « j'ai peur ». « J'ai peur, j'ai mal ». Il y a un travail de vérité sur nous-mêmes. On n'est pas des surhommes. Et les gens que j'admire dans le combat chrétien, j'admire beaucoup un certain nombre de personnes, notamment les frères et sœurs de mon église, dont certains passent par des situations difficiles. Et je vois leur fermeté en Dieu, leur confiance. C'est un exemple. Mais ils ne jouent pas de rôle. Ils ne se la jouent pas super spirituel. Ouais, je suis sur les hauteurs. Vous voyez, il n'y a pas de posture évangélique à bon marché à adopter. Voilà, voilà un truc qui, je pense, ne fait pas sourire Dieu du tout. Cette fausse confiance. Donc, je crois qu'il faut avoir cette vérité d'admettre carrément, alors pas forcément l'admettre devant tout le monde, dans la grande assemblée, hein, mais déjà dans notre prière personnelle, admettre nos craintes, nos doutes, nos peurs, tout ce qui nous bloque, et faire ce travail dans la prière. Seigneur, je recherche, je suis dans la sombre vallée, et donc je recherche ta houlette et ton bâton. Et je sortirai de là dans une posture de réassurance. Et là, je peux exprimer ma confiance en Dieu, qui vient, une confiance authentique, qui honore Dieu. Donc, vous voyez, au cœur de ce psaume, même si ce n'est pas très formulé, il y a des craintes très nettes qui affleurent. Et puis David nous parle de la situation présente. Il nous dit où il en est maintenant, quoi. Et il décrit cette situation en deux points. Dans l'image de la brebis, il parle beaucoup du repos. L'Éternel est mon berger, il me fait reposer. Donc il y a les grands pâturages. Hein. Alors ça va se voir évident, parce que quand on est dans les Vosges, hein, c'est toujours vert, hein, même en été. Bon, vous savez, dans le climat de Palestine, les grands pâturages, plutôt exceptionnels. La plupart du temps, c'est très sec. Il n'y a pas grand-chose à manger quand on est une brebis. Et donc, vous avez cette image du repos, beaucoup d'eau, grand pâturage, sentiment d'être guidé, protégé. Et notez quelque chose qui est, je vais attirer votre attention, c'est quelque chose qui me paraît important. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice. Il y a un parallélisme là. Il me dirige près des eaux paisibles, égal, il me conduit dans les sentiers de la justice. Les eaux paisibles, c'est quoi? C'est la justice, c'est-à-dire le fait de chercher l'attitude juste. Autrement dit, pour formuler les choses autrement, une autre personne, venant 1000 ans après David et son descendant direct, c'est notre Seigneur Jésus-Christ, commence sa vie de prédicateur en se mettant sur une colline et il expose ce qui sera les points de son enseignement. C'est le fameux discours sur la montagne. Et il dit ceci, cherchez d'abord le royaume de Dieu et tout le reste vous sera donné par surcroît. Si véritablement nous sommes impliqués dans le royaume de Dieu, si véritablement nous avons à cœur que Dieu soit mis au centre dans nos vies et autour de nous, dans notre entourage et dans notre pays, si vraiment nous avons cette motivation profonde, alors on peut se reposer complètement sur lui dans l'assurance qu'il s'occupe de nous. En tant que militaire, je dirais que si nous allons au combat, nous sommes assurés que lui, il fera la logistique, ça c'est sûr. Mais si je ne suis pas prêt à aller au combat, la logistique, pourquoi il se fatiguera de me la faire? Donc, oui, je ne peux pas dire il me dirige près des eaux paisibles si je ne me laisse pas conduire dans les sentiers de la justice. Et même si ça peut être coûteux, les sentiers de la justice. Ça passe par des renoncements. Ça passe par des combats, ça passe par des luttes. Mais si je veux vraiment honorer Dieu, alors je ferai la connaissance des eaux paisibles. Voyez. Donc il y a cette image du repos. Et puis dans la deuxième partie du psaume où David parle de lui sous l'image d'un être humain à table, l'image qui ressort là c'est l'abondance. Et David nous présente cette image d'un être humain ordinaire, invité à un super banquet par le grand roi. La table déborde, puis à peine vous avez fini votre verre, que vous avez entre guillemets un larvin qui vient vous le resservir. Waouh ! Ça, c'est la vie. Hein. L'image de la table. C'est une image qui est transculturelle, hein, qu'on vive en Palestine, Milan, avant Jésus-Christ, ou dans la France bourguignonne du 21e siècle. On sait ce que c'est la bonne table. Et le secret de l'abondance, c'est être tourné vers la personne de Christ. Et là, regardez. Tu dresses devant moi une table, tu oindules ma tête, ma coupe déborde. Je reviendrai dans la maison de l'Éternel. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, tu es avec moi. Tu. Vous voyez, il y a cette espèce, il n'est pas à table en train de manger. Il est à table, reçu par le grand roi, tourné vers le grand roi. Et le secret de l'abondance, c'est ça, c'est de tourner vers la personne de Christ. Si je suis tourné vers moi-même, et pour parler familièrement, si je me tourne autour du nombril, eh bien je vais être dans la disette rapidement. Il n'y a aucune abondance à être tourné vers soi-même. Ça peut paraître payant par moment, mais c'est une illusion. La réalité des choses, c'est que si je suis tourné vers moi, vers mes intérêts, centré sur mes manières de voir, je vais très rapidement me retrouver dans l'aridité, dans pas de pâturage du tout, et dans beaucoup d'insécurité. Donc si je veux l'abondance, eh bien là aussi, c'est Christ au centre. Et puis David termine son psaume, « Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et je reviendrai dans la maison de l'Éternel pour la durée de mes jours. » Vous voyez que là, on passe au futur, il ne parle plus de sa situation présente, il exprime cette confiance dans l'avenir, ayant vu dans le présent l'aide de Dieu, la protection de Dieu, ayant goûté l'abondance de Dieu, eh bien, il peut dire avec assurance, « Je sais qu'il en sera ainsi dans l'avenir. » Non seulement le présent, mais l'avenir est assuré. Avec l'insistance sur cette constance de l'aide de Dieu. Vous voyez, Dieu n'est pas un Dieu à éclipse. Dieu n'est pas un Dieu qui se met aux abonnés absents de temps en temps, qui part en vacances. David nous fait ce portrait d'un Dieu stable, sur lequel on peut se confier pour le présent et pour l'avenir. Non, j'aimerais faire un nota bene par rapport à ce que je viens de dire, parce que, soyons clairs, Dieu ne nous promet pas l'abondance ou la facilité en tout domaine et en tout temps. Vous ne pouvez pas prendre le psaume 23 comme un chèque en blanc. Regarde, Seigneur, tu as écrit ça, j'ai la bénédiction. Ça ne marche pas. Regardez le verset 4. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort. C'est quoi la vallée de l'ombre de la mort? Eh bien, un endroit où vous craignez pour votre propre vie, tellement vous manquez de certaines choses essentielles, tellement vous êtes dépouillé, tellement vous êtes menacé. Et donc, clairement, dans ce psaume où David exprime sa confiance, il nous dit, de manière très évidente, qu'il peut y avoir de très mauvais passages dans la vie chrétienne. Des choses décourageantes, des choses qui font peur. Pour parler comme mes élèves, des choses flippantes. Et donc, vous voyez, là aussi, on ne peut pas faire un message simpliste en disant « Ouais, la bénédiction est assurée. » Non, non. Vous savez, souvent, Dieu permet des manques dans notre vie, les craintes, les doutes, parce qu'elles manquent quelque part et souvent utilisées par lui pour nous faire progresser. Si je veux marcher, évoluer dans ma vie chrétienne, pas rester un bébé, eh bien, quelque part, je dois passer par des passages difficiles. C'est inévitable. Alors, c'est pas à moi de prévoir quand, comment, ça, je me remets à Dieu pour ça. Mais les passages difficiles, il y en a. On ne peut pas le nier. Et c'est justement souvent parce que Dieu veut nous amener à une abondance plus grande par la suite qu'il nous fait passer par la sombre vallée. Vous savez, pour déboucher sur le pâturage où, comme les choses, hein, on est beaucoup plus en hauteur, vous allez dans le Golan par exemple, en Galilée, dans le nord de la Galilée, eh bien déjà, l'herbe est beaucoup plus verte. Hein. Il pleut plus, c'est plus en altitude, il fait plus frais. Pour du bétail, c'est bien. Mais pour ça, il faut monter, il faut grimper. Il peut y avoir des passages resserrés avant d'accéder au plateau de l'abondance. Donc, soyons clairs, je serais un imposteur en tant que prédicateur si je venais vous prêcher l'évangile de l'abondance. Vous regardez, psaume 23, c'est marqué. Hein, vous aurez une super table, craindrez jamais rien, c'est pas vrai. Oui, nous pouvons croire à l'abondance que Dieu va nous donner. Mais soyons réalistes, on est sur terre. Et le psaume aussi, je dois le dire, promet avant tout l'abondance sur le plan spirituel. Parce que la table, c'est avant tout une image de la relation à lui. Et là aussi, on ne peut pas lire ce psaume en manière très littéraliste en disant « Seigneur va me bénir, je vais être augmenté par mon patron, je vais gagner une voiture à la tombola du Norma. » Non, ça ne marche pas comme ça. Dieu veut certainement nous bénir matériellement, Mais la première bénédiction qu'il a prévue pour nous, c'est que nous le connaissions et que nous soyons dans cette abondance-là, l'abondance spirituelle, et cela indépendamment des circonstances. Je voudrais terminer par deux exhortations. La première, c'est nous avons besoin d'apprendre à garder les yeux fermement fixés sur Christ, notre berger. Vous savez, les circonstances nous tirent vers le bas, souvent, à regarder vers la chose de la terre. On s'inquiète pour des choses terrestres. On voit des situations qui nous déplaisent. On voit des gens qui évoluent mal, on voit des situations qui évoluent mal, alors que ça nous concerne directement, nous en soyons témoins et ça nous afflige. On est souvent dans des choses comme ça. Et nous avons besoin de garder les yeux fermement sur Christ, notre berger, quand ça ne va pas. Et quand ça va bien, on a aussi une tendance à être tiré vers le bas. Tout roule, c'est formidable, il fait beau, on a un pique-nique de prévu, je viens de gagner au loto, peu importe, vous voyez. Ça aussi, ça a tendance à nous tirer vers le bas et l'abondance peut nous amener à oublier Dieu quelque part. Pas à l'oublier, non pas devenir des athées, évidemment. Mais voilà, de délaisser la vie spirituelle. Et là aussi, si je suis dans l'abondance, que tout va bien, j'ai besoin d'avoir les yeux fermement fixés sur Christ, mon berger. Parce que ce psaume est centré sur ce tu-je, ou je-tu, cette relation à Dieu, à Christ. Et les dons peuvent varier, c'est-à-dire je peux être dans l'abondance ou y être beaucoup moins, mais le donateur, il reste. Et la garantie de mon avenir, elle n'est pas dans les dons, dans ce que j'ai reçu de Dieu. La garantie de mon avenir, elle est dans le fait que je reste accroché à Dieu. Je reviendrai dans la maison de l'Éternel pour la durée de mes jours. Donc l'exhortation, c'est gardons les yeux fermement fixés sur Christ. Et puis une autre exhortation, c'est identifions les grâces de Dieu dans notre présent pour nourrir notre confiance dans l'avenir. Parce que ce psaume est construit comme ça. Je suis à table, j'ai un super parfum sur la tête qui m'a été versée, j'ai une coupe remplie d'un vin excellent, il y a plein de choses, bonnes choses à manger, mes ennemis grincent des dents en face de moi, de voir comment je suis honoré, combien je suis dans l'abondance, et tout va bien pour moi. Et je peux donc en déduire qu'il en sera ainsi dans l'avenir. Et donc, vous voyez, notre confiance dans l'avenir se nourrit de notre confiance dans le présent. Et combien il nous est possible d'être enfant gâté, d'être ingrat et d'être focalisé sur ce qui ne va pas, au lieu de dire et d'ouvrir les yeux sur les bénédictions très réelles que Dieu me donne. Je peux être là à râler, je crois que c'est une caractéristique nationale pour nous Français, à râler parce que voilà, il y a quelques gouttes de pluie ce matin, et que j'aime pas ça, et puis mon patron il me comprend pas, et puis ceci, puis cela, mon conjoint, mon chien, bon, n'importe quoi. Et je crois qu'on a besoin de cultiver la gratitude dans le présent. En particulier si justement les choses ne vont pas très bien, ça ne va pas comme on veut. Vous savez, il y a ce cantique fort connu, compte les bienfaits de Dieu. Tu verras en adorant combien le nombre en est grand. Et sur cette lucidité-là de ce que Dieu fait dans mon présent, je peux fonder ma confiance sur l'avenir. Et ce psaume se termine donc sur une assurance, mais qui est en fait un serment déguisé. Je reviendrai dans la maison de l'Éternel, c'est-à-dire j'aurai les moyens de revenir. Je ne serai pas paralysé, je ne serai pas en prison, je ne serai pas... Voilà, je vais pouvoir avoir une vie normale, venir au culte, au milieu de mon peuple. C'est une assurance, mais c'est aussi un serment. Je reviendrai louer Dieu. De semaine en semaine, de mois en mois, d'année en année, je serai fidèle dans mon culte. Mon culte public, hein, à l'époque, voilà, la maison de l'Éternel, mais aussi mon culte privé. Et donc ce psaume se termine sur cet exemple de fidélité. David fait confiance à Dieu pour l'avenir, mais il y a aussi, ayant justement les yeux fermement fixés sur son berger, il y a aussi ce serment qui est, dans ce bon combat de la foi, je ne veux pas me relâcher. dans ce bon combat de la foi, je prends des virages qui m'assurent que dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, je serai aussi ferme dans ma foi que je ne le suis maintenant. Entre-temps, il y aurait eu des tours et des détours. Entre-temps, j'aurais appris. Entre-temps, j'aurais reçu. Mais je persévérerai dans un monde qui renie Dieu, qui le marginalise. Je persévérerai à marcher avec lui. Psaume de David, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles, il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice, à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton, voilà mon réconfort. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et je reviendrai dans la maison de l'Éternel pour la durée de mes jours. Que le Seigneur vous bénisse.